le cours de la dernière fois. Donc nous avions commencé à parler des Arba Leshonot, des quatre langages de Géoula. On avait parlé du premier, vous vous rappelez, on avait dit Votseti, que Hachem il nous avait libéré de quoi? De notre Adishut, sensibilité.
Oui.
D'accord? Comment est-ce qu'on travaille la sensibilité, nous? C'est une bonne question, à l'occasion. En tout cas, le deuxième langage, c'est Veitsalti etrem Yaravodatam. Chazal nous disent que Hachem demanda à Moshe Rabbeinu, donc à Moïse, d'aller voir leur âme Israël et de leur demander de se séparer de toutes leurs idoles. Toutes leurs idoles. Chazal nous explique que, en réalité, leur âme Israël ne servit pas les idoles. Ils n'étaient pas idolâtres. C'est des juifs, pas forcément des bons juifs, mais ce n'étaient pas des idolâtres. Alors à quoi le verset fait allusion quand il parle d'idole, de Avodazara, d'idolâtrie? De l'idolâtrie que chacun a en soi. C'est-à-dire de se libérer de l'Avodazara qui est dans le cœur de chacun. Et à quoi Chazal font allusion, à quoi Chachamim, nos sages, font allusion lorsqu'ils parlent de la Avodazara qui est en nous? Qu'est-ce que vous dites? Le Yetzerara, exactement. Le Yetzerara qui est chacun dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors vous avez demandé pourquoi est-ce que le Yetzerara, il est comparé à des idoles, il est comparé à des dieux étrangers. Le Yetzerara, très souvent, enfin très souvent tout le temps, il nous pousse à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et donc lorsque nous écoutons donc notre Yetzerara, c'est comme si que nous servions un autre Dieu, puisque nous n'écoutons pas Dieu, maintenant nous écoutons le Yetzerara. Maintenant, le Yetzerara, sous quelle forme il s'exprime à travers nous? Alors comme on avait expliqué la dernière fois, il y avait deux sortes de Yetzerara. Il y avait un Yetzerara qui était extérieur, que lorsque je me rendais dans certains endroits, par exemple, alors là je me confrontais avec lui, comme par exemple, si Tata Ginette a l'habitude de dire la Shonara, et ben donc la médisance, si je me rends chez elle, alors là-bas, je vais écouter du Yetzer, je vais écouter du Lashonara. Ça, c'est un Yetzera, en réalité, qui était Ritsoni, qui était extérieur. C'est-à-dire que c'est un Yetzera qui n'était pas obligé, il n'était pas en moi. C'est moi qui ai parti le provoquer, qui ai parti le chercher. Comme par exemple, aller se rendre dans des endroits malsains, où là-bas, on va impurifier ses yeux et son âme. Ce n'est pas un Yetzera qui est en moi, c'est un Yetzera que je suis parti chercher. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Yetzera qui est Ritsoni. Maintenant, il y a notre Yetzerara, c'est le Yetzerara qui est Pnimi, à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un Yetzerara qu'on a reçu dès notre naissance. On est né avec. Et il nous a accompagnés jusqu'à nos 13 ans. Jusqu'à maintenant, oui. Non, mais jusqu'à 13 ans, on n'était qu'avec le Yetzerara. Après, à partir de 13 ans, il y a quelqu'un d'autre qui est venu en nous. C'est qui? C'est le Yetzeratov. D'accord? Notre bon penchant. D'accord? Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons notre mauvais penchant et notre bon penchant. Comment est-ce que notre mauvais penchant s'exprime? Vous savez, il s'exprime à travers nos midot, nos traits de caractère. Nos traits de caractère. Donc chacun il naît avec une dose, on va dire, une dose d'orgueil, une dose de colère, une dose de toutes les mauvaises, de toutes les mauvais traits de caractère. Chacun il a sa dose, chacun il a son. Il a son schéma. Pas tout le monde a la même dose, en fonction du caractère. Des gens qui sont très. Très comme ça, très cool, très sympathique, tu peux les écraser, ils ne bougeront pas. Il y en a la moindre chose, ça les excite, ça les énerve. Alors chacun, il a ses données, son schéma.
On va dire que chacun a un autre, mais chacun le ressort différemment.
Le ressort différemment. Alors en réalité, plus profondément, nous, on a tendance à décrire les mauvais traits de caractère. On a tendance à les détailler. Il y a la colère, il y a l'orgueil, il y a la médisance, il y a la haine, etc. En réalité, tous ces mauvais traits de caractère, comme les bons traits de caractère, ils n'appartiennent en réalité qu'à un seul groupe chacun, le bien et le mal. Chacun, en lui, lorsqu'il naît, il reçoit une part de bien et une part de mal. Maintenant, ce mal-là s'exprime chez lui sous plusieurs formes. D'accord? Donc le mal, il va avoir des symptômes. Donc, par exemple, il va être orgueilleux ou il va être coléreux. Mais en réalité, toutes ces choses-là, elles viennent du mal qui est en lui, donc son mauvais penchant. Et elles s'expriment de façon différente. Il faut savoir, si on peut, donc quand on ouvre cette parenthèse-là, comment justement faire pour essayer d'éliminer ces mauvais traits de caractère? En faisant du bien, parce que les mauvais traits de caractère, les bons traits de caractère, ils sont sur une balance. Somera Vasetov, c'est une autre notion qu'on verra plus tard, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le bien et le mal sont sur une balance. Plus tu vas faire du bien, plus le mal va s'éloigner. Par contre, si tu t'efforces pas de faire du bien, tu laisses le mal se développer chez toi, alors il va commencer à prendre une place de plus en plus grande et ton bien, il va disparaître. Plus que ça, il y a marqué aussi dans les livres que si par exemple quelqu'un dans sa jeunesse il était on va dire orgueilleux et qui n'a pas travaillé son orgueil, et ben le mal qui s'exprime chez lui par l'orgueil va se développer. Donc non seulement l'orgueil va grandir, mais ça va toucher à d'autres mauvais traits de caractère. Il va devenir coléreux, il va devenir radin, il va devenir tout ce que vous voulez. Oui. Parce qu'en réalité, tous les mauvais traits de caractère, ils sont aussi liés, comme on a dit, en parallèle aux bons traits de caractère. Si quelqu'un, il s'adonne à faire du bien sans arrêt, alors il va effacer ses mauvais traits de caractère. D'accord. En tout cas...
On ne dit pas qu'un tzadik, il est un peu moins sarah que quelqu'un qui est un peu moins.
Disons que l'épreuve du tzadik par rapport à son niveau est plus grande. Le Yetzerara d'un tzadik, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus vicieux, on va dire. Le Yetzerara de quelqu'un qui n'est pas tzadik, il est très gasse, très grossier. D'accord ? Ce sont des attirances, on va dire, bestiales. Chez un tzadik, le Yetzerara, pourquoi il est plus grand, pourquoi il est plus difficile, pourquoi il est plus fort ? Parce que ce sont déjà des Yetzerara beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, beaucoup plus... qui touchent vraiment dans des petits points de la personne. D'accord ? Maintenant, donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Veit salti et très miravodatam, il nous a sauvés de quoi ? Justement, de ce Yetzera qui était en nous. D'accord ? Très souvent, alors là, le Rav, il dit un truc intéressant. Hein. Très souvent, pourquoi est-ce qu'on compare le Yetzera avec un service, avec un travail ? Parce qu'on en vient parfois à servir le Yetzera. Ça veut dire quoi, servir le Yetzera ? On vient parfois à justifier ses mauvais traits de caractère par un service, on va dire un service divin. C'est-à-dire que, en réalité, je sers mon Yetzera, mais je le camoufle sous forme de mitzvah. Alors le Rav, il ramène une histoire qu'il a vécue qui est un peu rigolote. Une fois, on s'est rendu dans un mariage, et donc le serveur, il a commencé à servir toutes les personnes qui étaient assises à la table, et il en a oublié un. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme qu'il a oublié ? Il s'est levé, paniqué vers le serveur, hey, tu m'as oublié, il l'a servi, après il est revenu avec une grande assiette comme ça devant lui, une grande assiette de poulet avec plein de légumes, une bonne assiette. Et le rave, il lui dit, mais dites-moi, vous n'avez pas à manger chez vous, qu'est-ce qui t'arrive de courir comme ça? Qu'est-ce qu'il lui répond? Alors justement, afin de cacher sa gourmandise, sa goinfrie, il dit, mais rave, seudat mitzvah, c'est une seuda de, comment on dit seudat mitzvah?
Remerciement,
seudat mitzvah, c'est le... C'est comment on dit seudat mitzvah en français? Seudat mitzvah. Pour celui qui ne comprend pas l'hébreu, le repas qui accompagne un mariage, c'est un repas qui est sanctifié, on va dire. D'accord? Il y a une certaine sainteté, et donc c'est une mitzvah de manger, un commandement positif de manger un tel repas. Donc ce monsieur-là, comment est-ce qu'il est arrivé à cacher sa goinfrerie par la mitzvah? D'accord? Les chas v'shalom, on peut arriver à faire plein de choses comme ça, à camoufler tous nos mauvais traits de caractère de cette façon-là. Par exemple, quelqu'un hein, qui se met à hurler sur son gosse, parce qu'il est coléreux. Un monsieur coléreux, il commence à hurler sur son gosse. On lui dit, mais le caras, la colère, c'est très mauvais, pourquoi est-ce que tu t'énerves, tu te mets en colère? Il dit, mais je suis obligé de mettre en colère, si je me mets en colère, je ne vais pas l'éduquer, le gosse. Donc il vient camoufler sa colère par l'éducation, disons l'éducation entre guillemets. Etc. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il nous a sauvés de cette avoda. Quelqu'un, il avait posé la question la dernière fois, il a dit, mais attends, je ne comprends pas, les gens n'avaient plus du tout donc, de Yetzera à l'intérieur, il n'y avait que des bonnes midotes. Alors, je n'ai pas vu la question écrite, ni la réponse écrite. Ce qu'on peut expliquer, c'est que au moins Hachem, à cette époque-là, à ce moment-là, il nous avait ébauché de nos mauvais traits de caractère. C'est-à-dire qu'on avait peut-être, enfin, on avait apparemment acquis en Égypte de très très mauvais, très mauvais traits de caractère, et Akash Bokhu, il les avait ébauchés, il nous avait purifiés. D'accord ? Est-ce qu'on est arrivé à devenir des gens parfaits ? Peut-être pas, oui. Qu'est-ce qu'il dit ?
À ce moment-là, oui.
À ce moment-là, oui, on est arrivé ? Ah, qui dit ça ? Le Rav Wolber. Alors, le Rav Wolber est chaud, dit apparemment à ce moment-là que oui, il nous avait complètement purifié. Donc, très intéressant. Il faudrait qu'on le lise. En tout cas, ça, c'est le deuxième langage de Geoula. Ve'itsalti, je vous ai sauvé. Et très mi'avodatam de votre service, donc du Yetzerara. Le Yetzerara, en vérité, c'est quelqu'un avec qui on va vivre toute notre vie, vous savez. Oui. Faut attention, il ne faut pas trop l'exciter. Si on l'excite trop, alors à la fin, il devient... En tout cas, le troisième langage, c'est quoi? Vega alti et trem bizroa netouya ou beshefatim gedolim. Vega alti et je vous ai... Galti, comment on dit? Je vous
délivré.
Ai... Délivré, d'accord? Etrem vous, bizroa netouya d'un bras étendu ou beshefatim gedolim avec des grands prodiges. D'accord? Alors, il faut savoir que Chazal, donc Chachamim, nos sages, ils commandent ce verset-là et il dit que ce verset-là, il fait allusion à quoi? Vous savez à quoi? Kriyatiam Souf, l'ouverture de la mer. Donc après qu'on soit sorti d'Égypte, on s'est retrouvé devant la mer. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait afin de nous protéger, de nous sauver des Égyptiens qui nous poursuivaient? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer. Donc c'est pour ça qu'il a marqué Vega Alti Etrem, je vous ai sauvé, avec un bras étendu et avec des grands prodiges.
Grand prodige. Que Kriyatiam Souf, vous l'avez dit
d'avant aussi. Ah, alors tu poses la bonne question, mais c'est la question que le Ravi pose. Alors attendez, avant la question, le Rav nous dit, c'est à ce moment-là où Israël, donc le peuple juif, va acquérir la Emouna, la foi, c'est des mots un peu pas de chez nous. C'est pas bon, ça veut dire ce que ça veut dire. La Emouna Berouch, de façon palpable. C'est seulement quand on va traverser la mer qu'on va acquérir donc cette émouna, cette foi. D'où on sait ça du verset. Le verset nous dit « Zekeli venveu ». À ce moment-là, les Juifs, ils ont tendu le doigt vers Hachem, ils ont dit « Oh, ça c'est notre Dieu et nous voulons l'embellir ». Donc à ce moment-là, ils ont vu Dieu. Quand? Lorsqu'ils ont traversé la mer. La question que vous allez donc poser, c'est la question que donc M. Beir nous pose. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Avant ça, ils étaient en Égypte et ils ont vécu pendant un an. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Non, un an, ils ont vécu les 10 plaies. Les 10 plaies, ils ont vu pendant un an comment est-ce que la colère divine, elle s'abat sur l'Égypte de 10 façons différentes, de façons extraordinaires. Le sang après les grenouilles, etc. Toutes les plaies extraordinaires qu'ils ont vues. C'est-à-dire, je comprends, ils ont pas, à ce moment-là, acquis la Emouna. Pendant un an, tu vois des miracles extraordinaires. Plus que ça, les plaies frappaient les Égyptiens, mais ne les frappaient pas à eux. Vous savez, lorsqu'il y avait par exemple le sang, la maca du sang, si même lorsqu'un juif et un égyptien buvaient dans le même verre, l'égyptien buvait du sang et le juif, il buvait de l'eau. D'accord? Donc c'est un miracle extraordinaire. C'est inexplicable par rien du tout, la magie rien du tout.
Mais c'est que les juifs n'étaient pas encore sortis d'Égypte, c'était encore assez c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas encore la main d'Hachem. Même si tous les prodiges qu'il y avait, mais
alors c'est ça la question. C'est la question qu'on pose. Comment est-ce que, après avoir vu autant de prodiges, tu n'as pas acquis la Emouna la foi?
Encore en Égypte, ils n'ont pas encore sorti d'Égypte.
Mais alors, tu as besoin de sortir d'Égypte. Moi, tu bois un miracle extraordinaire maintenant. Tu étais avec un Égyptien, lui boit du sang et toi tu bois de l'eau. T'es pas fasciné de ça? Il y a des grenouilles, il y a des millions de grenouilles qui arrivent comme ça. Ils viennent pas chez toi, ça te dérange pas? Ils viennent chez...
C'est
extraordinaire, c'est un miracle extraordinaire.
D'accord, ils sont encore en Égypte, ils sont pas encore sortis.
Mais alors, tu veux sortir d'Égypte, pourquoi?
C'est leur endroit où tu es asservi.
Mais alors, c'est pas parce que tu es asservi dans cet endroit-là que tu ne vas pas croire en Dieu grâce au miracle. Un miracle extraordinaire, les Makat Bechorot, Makat Bechorot, où là, tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir et les Juifs vont être épargnés. C'est extraordinaire. Makat Arov, les bêtes féroces. C'est vrai que les bêtes féroces, il y en a partout, sauf où? Chez les Juifs. D'accord, les petits juifs, ils se baladaient comme ça au zoo, c'était un vrai safari. Ils voient les Égyptiens en train de se faire bouffer par des lions, par des trucs. Regarde un lion, regarde un ours et tout. Extraordinaire. Et lui, il ne lui arrive rien du tout. De voir de telles choses, ça te remue pas. T'as pas envie de tu crois pas en Dieu. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que seulement après avoir traversé la mer, que les juifs ont commencé à croire? D'accord? Alors pourquoi? Le Rav ici nous explique, dit qu'à ce moment-là, justement, Akash Borou, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés. C'est-à-dire quoi? Il nous a sauvés, il nous a délivrés. De quoi il nous a délivrés? Alors, avant d'expliquer, il faut savoir que il y a un verset qui dit Sour mera ve asetov. Fuis le mal et fais le bien. D'accord ? Quelqu'un qui veut se purifier, qui veut faire tchouba, qui veut se repentir, comment est-ce qu'il doit faire ? D'abord, il doit fuir le mal, c'est-à-dire retirer de lui toutes ses mauvaises habitudes, et ensuite commencer à faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, messieurs, dames peut-être ? Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'en réalité, le verset il est un petit peu complexe. Juste pour expliquer de façon très... Non, alors, justement, pour expliquer exactement ce que ça veut dire Sumera vers Asetov, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire tchouva maintenant, il ne va pas dire d'abord j'arrête de faire des averot, des fautes, et seulement après je vais commencer à faire des mitzvot. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire, bon, ok, là, je continue à ne pas faire Shabbat, on va dire. Non, pas du tout. Je continue à une mitzvah positive. Enfin, je ne mets pas les tfilines, c'est une mitzvah positive. Tant que je ne fais pas Shabbat, d'abord je vais arrêter de faire transgresser Shabbat. Et lorsque j'aurai complètement fini de transgresser Shabbat, de ne pas manger kasher, de faire toutes sortes de fautes, je vais me mettre à mettre les tefilines. C'est faux, c'est pas ça que ça veut dire. Sur Mera vers Asetov, là on parle déjà à des certains niveaux de service d'Avodat Hashem. C'est-à-dire avant de vouloir commencer à acquérir des niveaux de piété profonde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent commencer à travailler des tout petits traits de caractère, qu'ils ont des choses très fines chez eux, où ils veulent commencer à se sanctifier, la sainteté, etc. Avant tout ça, enlève tout le mal qui est en toi. Enlève ta colère, enlève ton orgueil, enlève toutes ces choses-là. Après que tu as enlevé tous les mauvais traits de caractère qui est en toi, alors là, tu pourras commencer à essayer d'affiner dans le bien. C'est ça que ça veut dire profondément, on sourmera vers un set-off. En tout cas. On voit que la Emouna, la croyance Hachem, quand est-ce qu'il nous l'a donnée ? C'est après les deux premiers langages. C'est quoi les deux premiers langages ? On avait dit Ve'otseti, Ve'itsalti. Ve'otseti, ça correspondait à quoi ? Ça correspondait à notre insensibilité. On avait dit l'insensibilité, notre cœur de pierre. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Déjà, il nous a enlevé notre cœur de pierre afin de nous donner la possibilité de ressentir les choses, d'être un peu plus chaleureux, un peu plus chaud, les uns envers les autres, aussi nous envers Hachem. Donc ça, c'est, il nous a enlevé d'une partie de mauvais traits de caractère. Ça, c'est le premier, Botseti. Ça fait partie de quoi ? De Sourmera. Enlève, fuit le mal. La deuxième chose, comme on a dit maintenant, Veitsati et Tremir Avodatam, c'est qu'il nous a purifié nos traits de caractère. D'accord ? De l'Avodazara, donc du Yetzera qu'on avait en nous, il nous a purifié de ça et il nous a enlevé encore donc ces mauvaises choses qu'on avait en nous. Donc les deux premiers langages, ils font allusion à un service qui s'appelle Sourmera, fuit le mal. Seulement après qu'on ait pu enlever de nous les mauvais traits de caractère, alors Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Emouna. Donc la question que vous allez poser encore, c'est pourquoi est-ce qu'il a attendu d'enlever les mauvais traits de caractère ? Pourquoi il ne nous a pas directement donné la Emouna ? Alors ici, le Rav Shadron, il dit quelque chose de très joli. Il dit parce qu'en réalité, la Emouna, croire, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il faut être crétin pour ne pas croire. D'accord ? De croire que le monde s'est créé tout seul, de croire qu'une table s'est faite sans menuisier, d'accord ? Sans qu'un menuisier est venu, il a fait la table, il faut être crétin. D'accord ? Donc de toute façon, de croire que le monde, un monde aussi magnifique, extraordinaire, il s'est fait tout seul, sans qu'il y ait un créateur qui est venu créer ce monde, il faut vraiment être crétin. Vraiment, il faut... avoir un problème dans le cerveau.
Ça aurait quand même été plus facile de convaincre le mal sur la dérivation, on a vu la foi. Il aurait pu me donner la foi en même temps que le mal.
Alors non, justement non. Donner la foi, ça, essayer d'inculquer de la foi à des gens qui ont des mauvais traits de caractère, c'est extrêmement difficile. Vous savez pourquoi ? C'est très beau ce que tu dis, justement, il explique. Il dit pourquoi est-ce que les gens n'y croient pas ? Pourquoi est-ce que les gens, un homme veut... En quoi ça le dérange que Dieu l'a créé le monde ? En quoi ça le dérange ? Dieu il a créé le monde, en quoi ça c'est bien, non ? C'est bien, regarde, Dieu il a créé le monde, c'est une bonne chose. Pourquoi tu ne veux pas croire ? C'est pourquoi je ne veux pas croire ? Tout simplement parce que voilà, dans la Torah, je donne un exemple, il y a marqué qu'on ne doit pas, par exemple, manger le cochon. D'accord ? Le cochon. On n'a pas envie de manger le cochon. Et moi, j'adore le cochon, j'aime le cochon. Donc j'ai un problème. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir manger du cochon ? Puisque la Torah m'interdit, puisque Dieu m'interdit de manger du cochon. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Très simplement, tout simplement. Je vais renier la foi, je vais dire que la Torah est fausse, que Dieu n'existe pas. Et comme ça, ça va me permettre de manger mon cochon. D'accord ? Etc. Avec toutes les autres, tous les mauvais traits, tous les mauvais comportements.
Un homme qui... Les gens qui disent, je ne suis pas religieux, mais j'ai la foi.
Je suis pas religieux, mais j'ai la foi. Là, c'est trop compliqué comme phrasage.
Je crois en Dieu, mais je ne suis pas la religion. C'est pas
je crois en Dieu, c'est Dieu est dans mon cœur. Voilà, que c'est l'histoire.
Exactement, c'est
voilà.
Ça.
Je suis du cœur. Que c'est l'histoire. Un jour, le Rav Ben Chitra, il avait raconté ça. Qu'il y avait un monsieur, on lui disait, ah, mais crois. Il dit, non, mais moi et Dieu, c'est dans le cœur. On a dit, mais les tefilines quand même. Il dit, non, les tefilines, laisse tomber. Moi et Dieu, c'est dans le cœur. Alors, mange cachère, non, moi et Dieu, c'est dans le cœur, je te dis. Toi, un jour, ce type-là, il a fait un accident. Et la voiture, elle est en train de brûler comme ça. Alors, les anges dans le ciel, ils disent à Dieu, mais Dieu, sauve-le. Il dit, non, lui et moi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Non, bon, c'est une blague. Hein. Je ne sais pas combien est-ce qu'il faut la prendre à la lettre. En tout cas, Jésus du cœur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est comme si qu'un homme, il dit à une femme, à sa femme, dit je t'aime. Ah ouais, tu l'aimes, marie-toi avec elle. Que ça veut dire de l'aimer? Fais, accompli, marie-toi avec elle.
Un petit peu embêtant de dire qu'il nous a inculqué la foi, mais ça ne s'inculque pas la foi.
Il nous a inculqué la foi.
Parce que c'est pas la conséquence des deux premières.
Exactement, c'est la conséquence. Et oui, en vérité, tu as tout à fait. Quand je dis inculquer la foi, c'est-à-dire qu'il nous a fait encore un autre miracle extraordinaire. Et en voyant donc cet autre miracle, à savoir l'ouverture de la mer, alors là, on a acquis nous-mêmes cette foi-là. C'est la conséquence, comme tu dis joliment, de nous avoir épurés de nos mauvais traits de caractère. En tout cas, le Rav, il continue ici, qu'en réalité, donc, comme on l'a dit, les gens ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des mauvais traits de caractère. Ils ont des tahavot, ils ont des envies, ils ont envie de manger ci, ils ont envie de faire des averot, de se marier avec celle-là. Ils ont envie d'aller, je ne sais pas moi, en boîte de nuit le vendredi soir, ou Hasbe Shalom, de telles choses. Alors forcément, afin de justifier leur mauvais comportement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils renient la foi. Il n'y a pas de Dieu. Donc s'il n'y a pas de Dieu, ça me permet de faire ce que je veux. Donc, qu'est-ce qui provoque mon antifoi, ce sont mes mauvais traits de caractère. Hachem nous a retiré ces mauvais traits de caractère. Et la première chose qu'on a vue, à savoir donc la traversée de la mer, ça nous a donné cette foi-là. Exactement. Alors, c'est ça qui a marqué. Sourmera. Donc les deux premiers, c'était fuis le mal. Et maintenant, Asetov. Enfin, on peut faire le bien. Asetov. Ça, c'est le troisième langage de Géoula. Quel est le quatrième ? C'est quoi le quatrième ? Et je vous ai pris pour peuple, et je vous ai... Oui, je vous ai pris pour moi, pour peuple, et j'ai été pour vous un Dieu. D'accord ? Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus profond. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est... Les trois premiers langages, ce sont vraiment des langages de Géoula. Veotseti, je vous ai sorti. Veitsalti, je vous ai sauvé. Et le troisième, Vegalti, je vous ai libéré. Trois langages de sauvetage, vraiment, que Hachem nous a sauvés. Maintenant, le quatrième, en réalité, il n'y a pas de lien avec un sauvetage. Velakarti le'am, je vous ai pris comme...
C'est quand même une consécration, c'est pareil.
C'est pas un langage de sauvetage. Je vous ai pris, c'est pas un langage de...
Il y a sous son aile, entre guillemets.
Entre guillemets, si tu mets des guillemets, tu peux tout expliquer. Mais dans le langage, je te parle, moi. Avec la quartier, c'est-à-dire quoi, avec la quartier. Je vous ai pris comme... D'accord. Donc les trois premiers, on les comprend. Le quatrième, on ne comprend pas très bien. On avait dit dans le premier cours, si vous vous rappelez, que les quatre langages, ils correspondaient à une descente en esclavage. C'est-à-dire que Pharaon ne nous a pas asservis d'un coup. Et là, il nous a servis par étapes. Il a alourdi son esclavage petit à petit. Quelle a été la quatrième étape ? Vous savez quand est-ce que c'était la quatrième étape ?
Non.
La quatrième étape, c'est lorsque Moshe Rabbeinu va venir voir Pharaon. Il veut dire Pharaon, voilà, Hachem m'envoie. Let my people go, laisse partir mon peuple. Oui, je te dis joliment.
Très bien.
Laisse partir mon peuple. Alors là, Pharaon, il dit quoi ? Ton peuple, ils veulent sortir d'Égypte ? C'est bizarre, ça. Les Juifs ont envie de sortir d'Égypte ? Ah, il y a un truc qui ne va pas ici. Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? D'ici, s'ils réfléchissent, s'ils ont envie de sortir d'Égypte, c'est qu'apparemment, ils y ont réfléchi. Ils ont réfléchi à ça. Ils ont réfléchi à la liberté, à toutes ces choses-là. Oh, pourquoi ils ont réfléchi ? C'est pourquoi ? Parce qu'ils ne travaillaient pas assez. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire, Pharaon ? je vais alourdir leur travail. Si pendant toutes ces années, ils avaient, comme vous savez que pendant l'esclavage, on ne travaillait pas tous les jours. 6 jours, ils travaillaient et ils se reposaient, Shabbat. Shabbat, ils se reposaient. Ils disent, voilà, si apparemment, le fait de se reposer, Shabbat, ça leur apporte des idées de délivrance et que le Shabbat, ce n'est pas bon pour des esclaves. Et qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il leur a ajouté du travail, le Shabbat. D'accord? Non seulement donc travailler le Shabbat, mais aussi il leur a ajouté du travail. C'est-à-dire qu'il a alourdi leur besoin quotidienne. Là-bas, hein, ils devaient construire des briques. Oui, avec des briques, il fallait de l'argile et il fallait de la paille. Alors Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, comme tout le monde connaît ce passage-là? Il a dit, voilà, alors si ton bâton, il est aussi miraculeux que ça, alors il n'a qu'à lui fournir de la paille aux esclaves. Et sinon, alors ils ont qu'à aller eux-mêmes dans les champs et les récolter. Vous savez ce qu'il dit le Midrash sur ça? Mais c'est terrible que les Juifs, le lendemain matin, ils sont partis, donc ils sont venus beaucoup plus tôt avec leurs femmes et leurs enfants dans les champs. Et ils ont commencé à couper donc la paille. Là, les Égyptiens, ils sont arrivés, ils disent, qu'est-ce que vous faites? Il dit Pharaon, il nous a demandé de faire des briques et il ne veut plus nous fournir la paille, nous devons nous-mêmes récupérer la paille. Il dit, ah non, vous ne prenez pas notre paille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti leur bâton, ils ont commencé à tabasser les Juifs. Les Juifs sont partis donc au travail et les Égyptiens disent, nous alors, pourquoi vous ne travaillez pas? On n'a pas de paille, comment est-ce que tu veux qu'on fabrique les briques? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont sorti leur bâton et encore une fois, ils les ont tabassés. Là-bas, le Midrash, il raconte qu'ils ont reçu, tellement ils ont reçu de coups ce jour-là, les Juifs, qu'il y avait une odeur de, je sais pas, une odeur, comment dire en français, une odeur de mort qui sortait, de pestilence qui sortait à cause des coups et des blessures et du sang qu'avait coulé ce jour-là. Donc à partir de ce moment-là, l'asservissement était arrivé à son plus haut niveau. À son plus haut niveau, et c'était terrible, 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 terrible. Ça n'a pas duré longtemps, Baruch HaShem, parce que quelques temps après, la première plaie va frapper l'Égypte. Et après cela, alors les Juifs vont arrêter de travailler. Enfin, malgré cela, malgré tout, le coup ici, il était tellement fort qu'il a traumatisé le peuple. Il a traumatisé littéralement. Et ils ont emmagasiné un stress tellement grand que la seule façon de retirer ce stress-là, c'était comment? Alors c'est justement ici le langage. Le verset, alors j'explique, « Velakarti etrem ileram » nous dit Razal que c'est quoi Velakarti ileram? Je vous ai pris pour peuple, c'est-à-dire que je vous ai donné la Torah. D'accord? Velakarti ileram, c'est là le don de la Torah. C'est-à-dire le but de la sortie d'Égypte, c'était quoi? C'est le don, c'est ce don de la Torah. Et ce don de la Torah, c'est le quatrième langage, la quatrième geoula que Hachem, prodigué, je sais pas si ça dit en français, prodigué. Et c'est seulement par le joug de la Torah qu'on a réussi à se purifier, on a réussi à enlever toutes les mauvais stress qu'on avait. C'est des mots que j'emploie, en français c'est un peu difficile de traduire les mots qui est rapporté ici, mais le mauvais stress qu'on avait, toute cette influence égyptienne, cette pression égyptienne, on ne l'a réussi à l'enlever, à devenir vraiment des bnei chorin. Par le biais de l'étude de Torah. Et donc là, nous avons ici les quatre langages de Géoula. Donc, en résumant, Ve'otseti, c'est le fait de redevenir sensible, de récupérer cette sensibilité. Ensuite, Ve'itsalti, d'essayer de retirer ces mauvais traits de caractère, de se purifier un peu, d'essayer de ne pas se mentir, de ne pas dire que je fais des choses parce que je sers Hachem par mes vœux. Non, c'est faux. Essayez de se purifier, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses défauts. Ensuite, Vega, Alti et Trem, on a dit, c'est de travailler sa Emouna. Comment on travaille sa Emouna? Vous savez, c'est très simple de travailler sa Emouna. De la même façon qu'eux, ils ont travaillé. Le fait de voir la création de fait, en fait, c'est pas vrai. Pas comme eux, ils ont vu des miracles. Mais nous aussi, on en voit des miracles tous les jours. Le fait de contempler la nature, de contempler le monde qui nous entoure, des petites feuilles, des petites abeilles, des petites choses, un enfant qui marche, un enfant qui naît, c'est extraordinaire. Et c'est celui qui est mis de bonne haine, qui réfléchit un petit peu sur toutes ces choses-là. Alors il acquiert, et c'est comme ça le Rambam nous dit de faire. Le Rambam nous dit que celui qui veut acquérir la Emouna, comment il fait? Il doit contempler la nature, il doit contempler le monde. Un homme qui contemple le monde, il ne peut pas rester insensible, il ne peut pas ne pas croire en Hachem. Ça, c'est uniquement, bien sûr, quand on a réussi à enlever ces mauvais traits de caractère et ces attirances pour les, pour la, pour la gashmiut. Comment on dit la gashmiut? C'est pas la gashmiut vraiment, pour la... nos mauvaises tendances. La quatrième chose, afin de vraiment de se purifier, vraiment de devenir un vrai ben chorim, un vrai homme libre, c'est de s'adonner à l'étude de Torah. Pour finir, il faut savoir que si Hachem nous a donné des fêtes, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'on aille se promener, c'est pas pour qu'on... C'est pour qu'on s'adonne à l'étude de Torah. D'accord? Le Chol HaMoed, on doit le sauver, on doit... Les fêtes aussi, surtout cette fête de Pessah extraordinaire, afin de prodiguer, de donner la Emouna à nos enfants, à nos familles, et de se rendre, il y a beaucoup de gens qui ont fait Teshuvah, rien qu'à cause du soir du Seder. Bézard Hachem, Chazak Baruch.